Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi Montréal se dirige-t-elle vers un déclin de sa population? Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 27 mai 2026 dans Le Devoir. À l'inverse, Toronto et Vancouver devraient observer une hausse. Qu'est-ce qui explique la différence? Selon l'analyse de l'Observatoire Grand Montréal de la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM, la grande région de la métropole se dirige vers un déclin de sa population de 1,3% d'ici 2050. Tout le contraire de Toronto et de Vancouver, qui devraient connaître des hausses respectives de 14,6% et de 21,9% d'ici la même échéance. Qu'est-ce qui explique cette différence et quelles sont les pistes de solution? Tour d'horizon. Dans une note publiée mardi, l'Observatoire Grand Montréal est clair. Le vieillissement de la population s'accélère dans la région métropolitaine. Si les populations de Toronto et de Vancouver vieillissent elles aussi, l'effet est amorti, puisque leurs populations sont en moyenne plus jeunes et que les villes bénéficient d'une immigration plus soutenue. La question de l'immigration est d'ailleurs au premier plan lorsque vient le temps d'analyser le déclin ou la croissance d'une population, tout particulièrement au Canada, soutient Catherine Xardès, professeure adjointe au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, la croissance de la population, elle est quasiment exclusivement liée à l'immigration. Ça veut dire qu'il y a une relation directe entre les politiques d'immigration et la croissance de la population. Que les prévisions de la CMM fassent état d'un déclin de la population dans la région métropolitaine ne surprend ainsi pas la politologue spécialisée en politique publique et en immigration, comme la province a récemment mis en place des politiques visant à diminuer l'immigration permanente et à ralentir l'immigration temporaire. La fin du programme de l'expérience québécoise PEQ en est un exemple. Ça demeure une question politique, des pistes de solutions existent, mais ça dépend pour aller où. C'est sûr qu'on voit une inflexion plus forte au Québec que dans le reste du Canada, détaille Mme Xardès. Ottawa aussi a instauré des politiques avec la volonté de réduire l'immigration, mais Toronto et Vancouver restent des grandes villes qui capitalisent plus sur l'immigration que Montréal, qui reste dans la réalité du Québec. En plus de l'immigration en provenance d'autres pays, Catherine Xardès souligne que la migration à l'intérieur de la province peut venir influencer les taux de population. Le gouvernement du Québec a notamment mis en place des politiques pour promouvoir l'immigration en région, et la hausse du coût de la vie peut entraîner un exode en dehors des centres urbains, rappelle-t-elle. Sans une immigration soutenue, la population du Grand Montréal entre en décroissance, affirme en gros caractères la CMM dans sa note. Un propos qui trouve écho dans l'analyse de Sylvie Paré, professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal. Pour l'experte en immigration, le mot « soutenu » est toutefois particulièrement important ici. Si le Québec et la grande région de Montréal veulent empêcher ou réduire le déclin de leur population, il faut faire en sorte qu'il y ait une bonne adaptation, une intégration économique et que tout ça se fasse par les meilleures conditions possibles, soutient-elle, en mentionnant notamment la francisation ou la création d'infrastructures capables d'accueillir les gens. Ça demeure une question politique. Des pistes de solutions existent, mais ça dépend pour aller où. Ça dépend si on valorise la croissance de la population ou pas. Il y a des enjeux économiques et démographiques qui entrent en jeu, résume Catherine Xardès en citant les récentes décisions politiques québécoises qui semblent sous-tendues par une volonté de ralentissement de la hausse de la population après la hausse observée depuis la fin de la période pandémique. L'immigration en elle-même ne pourra d'ailleurs pas régler le problème du vieillissement de la population et de la hausse du ratio de dépendance, mentionne la professeure. Les immigrants eux aussi vieillissent, illustre-t-elle, en précisant que ça peut toutefois stabiliser la situation. La publication de mardi note d'ailleurs qu'en 2023 et en 2024, l'afflux de nouveaux arrivants a temporairement soutenu la population d'âge actif, entraînant une brève inflexion du ratio de dépendance. Cette amélioration ponctuelle montre que l'immigration peut soutenir la population d'âge actif, sans toutefois renverser la tendance au vieillissement. L'immigration peut aussi constituer une main-d'œuvre capable de répondre aux besoins dans les services sociaux qui s'accroissent à mesure que la population vieillit, explique Sylvie Paré. C'était « Pourquoi Montréal se dirige-t-elle vers un déclin de sa population ?» un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 27 mai 2026 dans Le Devoir.
Montréal s'entend avec CDPQ Infra pour créer des pistes cyclables dans les emprises du REM. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 21 mai 2026 dans Le Devoir. La Ville de Montréal souhaitait depuis des années profiter de l'arrivée du réseau express métropolitain pour réaliser des véloroutes vers Deux-Montagnes et le parc nature de Lens-à-l'Orme. Elle s'est finalement entendue avec CDPQ Infra pour planifier l'aménagement de pistes cyclables dans les emprises ferroviaires du REM. Le comité exécutif de la Ville a approuvé, mercredi le 20 mai 2026, une entente qui détaille les modalités de la planification et de la gestion de pistes cyclables dans les emprises du REM sur le territoire de l'agglomération de Montréal. On y précise les tronçons qui pourraient faire l'objet de travaux d'aménagement et le partage des responsabilités entre CDPQ Infra et la Ville. Cette entente prévoit notamment que la filiale de la Caisse sera responsable des chantiers à réaliser dans ces emprises, mais que la Ville devra assumer les coûts des travaux et assurer la gestion et l'entretien des voies cyclables. Selon les informations rendues publiques par la Ville, CDPQ Infra lancera des études de faisabilité dès ce printemps et les travaux dans les emprises du REM devraient débuter en 2027. Un souhait de longue date. Dès 2019, la Ville avait espéré que CDPQ Infra prenne en considération l'aménagement de véloroutes dans la planification des branches du REM vers Deux-Montagnes et Lens-à-l'Orme. Elle avait alors demandé à la filiale de la Caisse de réaliser une étude à ce sujet. Cette étude avait toutefois déterminé que l'espace disponible pour des aménagements cyclables n'était pas suffisant partout sur le réseau, notamment sur les ponts d'étagement et les structures surélevées, avait rapporté Radio-Canada en 2022. À l'époque, l'administration de Valérie Plante avait reproché à CDPQ Infra son manque de coopération dans le dossier. L'entente identifie les tronçons où les aménagements cyclables seraient possibles. En tout, 24 tronçons sont envisagés, avec des longueurs variant de 50 mètres à 2,2 km. Alors qu'il était dans l'opposition, le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan D'Souza, s'était associé en 2022 au maire de Pierrefonds-Roxboro, de Saint-Eustache et de Deux-Montagnes pour demander à CDPQ Infra de profiter des retards dans la mise en service du REM pour intégrer un projet de véloroute vers Deux-Montagnes. Mieux vaut tard que jamais. Pour Jean-François Rault, PDG de Vélo-Québec, l'accord intervenu entre la Ville et CDPQ Infra représente une avancée importante dans ce dossier. Si elle se réalise, les deux véloroutes auront l'avantage d'offrir des axes cyclables de grande qualité, mais aussi de permettre aux résidents des secteurs visés d'accéder plus facilement aux stations du REM. M. Rault déplore tout de même qu'il ait fallu attendre si longtemps avant de lancer la planification de ces voies cyclables. C'est une bonne nouvelle, mais je pense que tout ça aurait dû être planifié dès le départ, indique-t-il. Selon lui, CDPQ Infra est aujourd'hui plus sensible à la question des aménagements de mobilité active dans ses projets qu'elle ne l'était auparavant. S'il refaisait le même projet aujourd'hui, ça ne se passerait pas de la même façon, avance-t-il. D'ailleurs, quand CDPQ Infra avait proposé le REM de l'Est, il y avait une piste cyclable qui était incluse dès le départ. L'aménagement d'axes cyclables sera non seulement plus complexe, mais risque aussi de coûter plus cher que si ces infrastructures avaient été planifiées en amont. On vient réparer une erreur, Mais ce n'est pas une erreur de la semaine dernière, c'est une erreur de 2017. De son côté, CDPQ Infra a salué l'approbation de l'entente par le comité exécutif de la ville. Cette entente témoigne de la collaboration étroite entre Projet REM et la Ville de Montréal afin de mieux intégrer le REM dans son environnement et d'en maximiser l'utilisation au bénéfice des usagers, a indiqué CDPQ Infra dans un courriel. Des discussions sont aussi en cours avec d'autres municipalités visées par les projets de véloroute, a-t-on ajouté. C'était Montréal s'entend avec CDPQ Infra pour créer des pistes cyclables dans les emprises du REM, un texte de Jeanne Corriveau, paru le 21 mai 2026 dans Le Devoir.
De l'aliénation marxiste au narcissisme social à l'ère algorithmique. En sous-titre, le selfie n'est plus un geste narcissique au sens de la vanité classique, mais un outil de navigation sociale. Ce texte est signé Maxime Marcoux-Moisan, qui est professeur de sociologie au Collège Montmorency. Ce texte est publié dans Le Devoir des 16 et 17 mai 2026. L'acte de se prendre en photo est devenu simple, voire naturel. Nous immortalisons des reflets numériques pour les offrir au regard des autres, occupant l'espace public d'une présence virtuelle qui redéfinit notre rapport à l'existence. Devant l'omniprésence du selfie, nous devons nous demander si ce phénomène ne traduit pas un excès de narcissisme et quel risque cette mutation fait peser sur notre humanité. Ce péril profondément sociologique constitue une mutation de l'être en paraître, d'une dépossession de soi que nous pouvons nommer « l'aliénation par l'image ». Pour comprendre ce phénomène, il convient de revenir à la racine philosophique du concept d'aliénation. Chez Karl Marx, l'aliénation décrit la condition de l'ouvrier dépossédé du fruit de son travail. L'objet produit devient une puissance étrangère qui opprime son créateur. Par extension, l'aliénation par l'image survient lorsque l'individu ne produit plus des actions, des expériences ou des pensées pour leur valeur intrinsèque, mais pour leur potentiel de représentativité destiné à la consommation d'autrui. Dans ce processus, l'agent social vivant s'efface derrière l'objet visuel. Cette aliénation prend trois formes principales. D'abord, une extériorisation de l'intime. Le moment vécu n'a de valeur que s'il est capturé, transformant l'expérience en marchandise. Ensuite, une scénarisation permanente. L'individu devient l'ouvrier d'une industrie de sa propre image, s'auto-exploitant pour répondre aux standards esthétiques des plateformes. Enfin, une dépossession de la subjectivité. À force de se voir par les yeux des autres, l'individu finit par ne plus exister que comme spectateur de sa propre vie. L'image ne reflète plus le sujet, elle le remplace. La filiation de Narcisse. L'histoire de Narcisse nous enseigne que le jeune homme meurt de ne pouvoir s'unir à son reflet, piégé par une image qu'il ne reconnaît pas comme sienne. Aujourd'hui, cette fascination n'est plus une tragédie solitaire, mais un impératif collectif. Pourquoi un impératif? Parce que dans l'écosystème numérique, l'invisibilité équivaut à une mort sociale. La visibilité est devenue la condition sine qua non de l'existence au sein des sociétés. Celui qui ne publie pas, qui ne performe pas son identité, s'expose à une forme d'invisibilité sociale ou de mort symbolique. L'impératif est collectif, car il s'inscrit dans une structure sociale où la reconnaissance passe désormais par l'écran. Ce basculement s'incarne dans le concept de narcissisme social. Historiquement, l'identité se construisait par un processus de socialisation où l'individu intériorisait des normes et des valeurs stables. L'estime de soi découlait d'une cohérence identitaire. Le sujet tirait sa légitimité de l'adéquation entre ses actions concrètes et son système de valeurs incorporées. Le regard d'autrui existait, certes, mais il n'était pas le seul baromètre de la valeur personnelle. Aujourd'hui, l'identité est devenue le résultat d'une validation externe et médiatisée. Pourquoi ce changement? Parce que les réseaux sociaux ont radicalisé le « soi miroir », entre guillemets, théorisé par Charles Horton Cooley. Le regard d'autrui n'est plus une simple composante de l'identité. Il en est le juge suprême et chiffré. Le selfie n'est plus un geste de vanité, mais un outil de navigation indispensable. L'identité ne s'exprime plus, elle s'éditorialise. On ne cherche plus à être, mais à produire des traces mesurables de son existence, des indicateurs comme les likes ou les partages. Ce passage de la subjectivité vécue à la performance chiffrée marque le point de bascule vers l'aliénation par l'image. En devenant les conservateurs de notre propre musée numérique, nous finissons par subir le sort de l'ouvrier marxiste. Nous sommes dépossédés de notre réalité intime au profit d'une production visuelle qui nous devient étrangère. Le sujet ne s'appartient plus. Il appartient à l'image qu'il doit maintenir pour rester visible. L'aliénation réside précisément là, dans cette obligation de se transformer en objet pour continuer d'exister en tant que sujet. L'infrastructure de l'aliénation. L'aliénation par l'image ne repose pas uniquement sur une volonté individuelle. Elle est portée par une infrastructure technique, l'algorithme. Ces lignes de code ne sont pas neutres. Elles agissent comme des dispositifs de normalisation. Par un système de récompense algorithmique, elles favorisent les contenus qui captent le plus d'attention, créant ainsi une boucle de rétroaction où le succès médiatique dicte la norme esthétique. En récompensant certains types d'images, comme le glamour, la réussite, la perfection esthétique, et en invisibilisant les autres, les plateformes dictent les contours de ce qui est socialement acceptable. Ici, l'aliénation par l'image prend une forme structurelle. L'individu n'est plus le sujet de sa mise en scène. Il devient l'objet d'un calcul de probabilité visant à maximiser l'engagement. En s'inspirant des travaux de Pierre Bourdieu, on comprend que chaque publication est une stratégie de distinction. On ne se photographie pas seulement pour être vu, mais pour être reconnu comme appartenant à une catégorie sociale valorisée. Dans cette perspective, l'image devient une monnaie d'échange dans une économie de l'attention où le « moi » est la marchandise principale. Elle fonctionne comme une monnaie car elle est convertible en reconnaissance sociale et en capital de sympathie. L'utilisateur investit, entre guillemets, dans une représentation de soi performante pour obtenir en retour validation et approbation. L'aliénation par l'image atteint ici son paroxysme. L'individu finit par adapter sa réalité physique, ses voyages, ses repas, ses relations pour satisfaire les exigences esthétiques de son double numérique, préférant la validation du simulacre à la vérité de l'expérience vécue. Narcissisme social. Si le narcissisme était autrefois perçu comme une pathologie de l'ego, il doit être aujourd'hui analysé comme une posture rationnelle au sein d'un marché de la visibilité. Dans une économie où l'attention est la ressource la plus précieuse, adopter des codes de l'auto-exposition constitue une stratégie d'adaptation logique. L'individu calcule ses publications pour maximiser son inclusion sociale. Comme le suggérait Irving Goffman, la vie sociale est un théâtre. Mais à l'ère numérique, ce théâtre est devenu global et permanent. La gestion de la « façade », entre guillemets, cet équipement expressif que nous présentons aux autres, n'est plus limité aux interactions face à face. Elle s'étend à une mise en scène continue des coulisses de la vie privée. Cette disparition des coulisses constitue une rupture majeure. Traditionnellement, l'espace privé permettait à l'individu de se soustraire au regard d'autrui pour restaurer ses forces psychiques. Désormais, l'impératif de la transparence transforme l'intimité en spectacle, ne laissant plus aucun lieu de répit pour le « moi » non scénarisé. L'effacement des coulisses devient le prix à payer pour ne pas être exclu. Cette hypervigilance vis-à-vis de son propre reflet est le résultat d'un environnement où le moindre faux pas esthétique peut entraîner une dégradation symbolique immédiate. On ne se regarde plus dans les yeux des autres, on se regarde dans leurs statistiques. C'est ici que le piège de l'aliénation par l'image se referme. À force de peaufiner cette façade pour satisfaire le public, l'individu finit par se sentir étranger à sa propre vie lorsqu'elle n'est pas filmée. Le sujet s'aliène, car il finit par se conformer entièrement à son personnage. Il n'habite plus son existence, il la gère comme un produit médiatique. La perte de l'authenticité. L'aliénation par l'image ne se limite pas à une quête de validation immatérielle. Elle opère une gradation qui peut mener à de la simple vanité à une mise en danger réelle du sujet. Le premier stade est celui du narcissisme symbolique. Ici, l'individu est en quête de likes, de commentaires et de partage. C'est une forme d'aliénation où l'estime de soi est déléguée aux mesures de performance web. Le risque est alors d'ordre psychologique. Anxiété, sentiment d'invisibilité ou épuisement identitaire. L'individu s'oublie, entre guillemets, dans son image, mais sa survie physique n'est pas menacée. Le basculement vers le narcissisme mortel survient lorsque l'impératif de visibilité court-circuite l'instinct de survie. Ce phénomène se manifeste par la multiplication des comportements à haut risque pour la prise d'une image « exceptionnelle », entre guillemets, selfies au sommet d'un gratte-ciel, au bord de falaises ou dans des zones de danger. Ici, l'aliénation par l'image atteint son point de non-retour. L'individu ne se contente plus d'adapter sa réalité à son double numérique. Il est prêt à sacrifier sa vie biologique pour la pérennité de son existence virtuelle. L'image n'est plus un reflet de la vie, elle en devient la prédatrice. Dans cette dynamique, le moi physique est perçu comme un simple accessoire, un support de production dont la sécurité est secondaire par rapport à la puissance esthétique du cliché produit. C'est la forme ultime de la fétichisation de l'image. L'objet, la photo, a désormais plus de valeur que le producteur, l'être humain. La prophétie de Tirésias. En fin de compte, la mutation du narcissisme de pathologie individuelle en norme sociale révèle une transformation profonde de notre rapport à la vérité. Si nous reprenons le récit mythologique, la nymphe Lyriope demanda un jour au devin Tirésias si son fils, Narcisse, vivrait longtemps. La réponse fut une énigme. Citation. Il vivra vieux s'il ne se connaît pas. Fin de citation. Pour les Grecs, cette connaissance passait par la vue de son propre reflet. Narcisse est mort le jour où il a capté son image et qu'il s'est perdu en elle. À l'ère algorithmique, cette prophétie résonne avec une force renouvelée. Nous sommes une société qui se regarde sans cesse, qui s'éditorialise et qui se quantifie en nous connaissant uniquement à travers le prisme déformant des écrans et des statistiques. Nous risquons de subir le même sort que Narcisse, l'atrophie de notre subjectivité réelle au profit d'un simulacre. Le véritable défi de notre époque ne consiste pas à briser les miroirs, ce qui serait illusoire, mais à réapprendre à exister là où la caméra ne filme pas. Retrouver une forme de sérénité, c'est peut-être accepter de redevenir invisible aux yeux de l'algorithme pour redevenir présent à soi-même. Car si exister, c'est être vu, alors vivre, c'est sans doute accepter, par moment, de disparaître. Fin de ce texte signé Maxime Marcoux-Moisan, titré « De l'aliénation marxiste au narcissisme social à l'ère algorithmique », texte publié dans Le Devoir des 16 et 17 mai 2026.